Et aller dans le livre des psaumes, vous savez que le livre des psaumes, c'est un recueil de chants, et plusieurs de ces psaumes ont été écrits par le roi David. Alors certains quand il était roi, mais d'autres avant qu'il soit roi aussi. Quand il était simple berger, il avait du temps pour composer alors qu'il surveillait les moutons, et qu'il était là avec son instrument face à la nature, à la beauté de la création. Et entre autres, un psaume qui est bien connu, c'est le psaume 23. Et juste quelques chapitres plus loin, psaume 25. Vraiment, c'est ce que David a pu partager sur son cœur devant le Seigneur. Quand on étudie ce psaume, on s'aperçoit quelque chose. On s'aperçoit que David avait un talent artistique. Alors, bien sûr, on n'est pas des spécialistes en hébreu. Enfin, à moins qu'il y ait quelqu'un par ici qui connaissent bien l'hébreu? Il y en a ou pas? Moi non plus, hein. Vous inquiétez pas. Mais ce qu'il y a de remarquable dans ce psaume, c'est un des premiers psaumes alphabétiques. C'est-à-dire que chaque verset commence par une lettre de l'alphabet hébreu. Alors, bien sûr, en français, ça ressort pas du tout. D'accord? Mais c'est une sorte de règle que David s'est imposée, et tout en traduisant les sentiments qui sont dans le cœur de David. Et quand on considère ce psaume, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses différentes, presque mélangées. Il y a de la prière, il y a de la proclamation, il y a des promesses, il y a plein de choses qui sont là. Il y a des pleurs. On sent David, parfois il passe des pleurs à la joie en quelques mots, en quelques versets, et quelque part ça me rassure, moi. Parce que je me retrouve. Je ne sais pas comment sont vos temps de prière personnelle, s'ils sont bien cadrés. Je vais commencer par la repentance, ensuite je vais passer au moment de la louange, ensuite je... Est-ce que c'est comme ça, ou est-ce que c'est un peu tout mélangé en vrac, mais le Seigneur il se retrouve? Parce que nos cœurs ils sont comme ça, hein? Non? Oui. Nos cœurs ils sont comme ça. Et c'est bon de trouver des paroles de la Bible qui vont dans ce sens. Et ce matin, je voudrais qu'on étudie trois prières pour notre âme. Trois prières pour notre âme. Trois prières qui vont permettre que notre âme fasse des progrès, avance. Et ces trois prières, on les trouve donc dans ce psaume 25. On va le lire d'abord en entier. Vous allez essayer de les trouver en lisant. De David, vers toi, Éternel, j'élève mon âme. Mon Dieu, en toi, je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis n'exultent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas dans la honte. Ils seront dans la honte ceux qui, sans raison, sont des traîtres. Éternel, fais-moi connaître tes chemins. Enseigne-moi tes voies. Fais-moi cheminer dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. En toi, j'espère tous les jours. Éternel, souviens-toi de tes compassions et de ta bienveillance. Car elles sont depuis toujours. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse, ni de mes révoltes. Souviens-toi de moi selon ta bienveillance, à cause de ta bonté éternelle. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin. Il fait cheminer les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles son chemin. Tous les sentiers de l'Éternel sont bienveillance et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes. C'est à cause de ton nom éternel que tu pardonneras ma faute, car elle est grave. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre le chemin qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa descendance possédera le pays. La pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et pour leur faire connaître son alliance. Mes yeux seront toujours tournés vers l'Éternel, car c'est lui qui fait sortir mes pieds du filet. Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce, car je suis seul et malheureux. Les angoisses ont rempli mon cœur. Fais-moi sortir de mes angoisses. Vois ma misère et ma peine. Pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me haïssent. Garde mon âme et délivre-moi, que je ne sois pas couvert de honte quand je me réfugie en toi. Que l'intégrité et la droiture me protègent, car je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, Libère Israël de toutes ses détresses. Amen. Et vous voyez, vous remarquez que David ne reste pas centré, focalisé sur lui, sur sa personne, même s'il prend le temps de le faire, hein. Mais à la fin, il termine, Seigneur, oublie pas le peuple, oublie pas ton peuple. On a tous des soucis, on a tous des problèmes. Et c'est pas parce que on sert Dieu ou pas qu'on n'a pas de problème. D'ailleurs, on est tous serviteurs de Dieu. Mais, alors qu'on répand notre cœur devant lui, alors qu'on fait connaître à Dieu notre prière, à un moment donné, le Seigneur nous pousse à nous tourner vers les autres aussi. Sinon, on reste bloqué sur soi. Alors, trois prières qui sont là dans ce psaume, trois choses qui vont faire que, des étapes un petit peu pour notre âme qui vont faire qu'on va progresser. Au début, il est question d'une âme qui s'élève. C'est le tout premier verset. Éternel, j'élève à toi mon âme. Et à chaque fois qu'il y a une prière, il y a une pensée qui est là, il y a une image qui est là. Moi, j'aime bien associer les progrès spirituels avec des images, avec des symboles. Presque un geste élevé, ça signifie littéralement porter, faire l'effort de mettre en haut. Parce que souvent, il y a des choses qui nous poussent en bas. Non ? Ben si. Il y a plein de choses. Les choses de ce monde nous amènent à nous attacher à ce qui est terrestre. Mais le Seigneur nous invite à élever, à porter en haut notre âme. Il y a vraiment cette image-là de quelqu'un qui est en train de se noyer, quelqu'un qui est en train d'enfoncer dans les eaux et qui a quelque chose de précieux qu'il ne faut surtout pas qu'il touche l'eau et qui veut le maintenir en haut. Vous voyez cette image-là ? Le bras qui sort de l'eau et qui dit « Je suis en train de couler, je suis en train de me noyer, mais je lève mon âme. » C'est ça, élever son âme. C'est ça. Présenter devant le Seigneur ce qui nous est le plus cher. Mais oui, parce que notre vie entière peut s'écrouler, mais si notre âme s'élève devant Dieu et que Dieu fait son travail, eh ben on est sauvé. Imaginez Pierre en train de couler, lui qui vient de marcher sur l'eau pourtant, mais il est en train de couler, il est en train de s'enfoncer. J'essaie de savoir à quel moment le Seigneur l'a sorti de l'eau. Est-ce qu'il a dit qu'il ait la tête sous l'eau ou pas ? J'en sais rien, je pense pas. Mais imaginez, pour nous ça peut arriver qu'on mette la tête sous l'eau, avec les circonstances. On voudrait pas, hein ? Qui aime se noyer ? Personne. C'est physiquement c'est déjà horrible, mais spirituellement c'est encore plus horrible. Mais le Seigneur est celui qui va attraper notre main que nous élevons devant lui. Élevons notre âme devant le Seigneur. Parce qu'il y a des ennemis qui veulent nous abaisser. C'est pour ça qu'il est question de la honte, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas. Il y a des ennemis, il y a des épreuves. On ne veut pas voir le diable partout, on n'est pas des personnes mystiques, mais on sait qu'il y a un diable qui est à l'œuvre, qui agit, un accusateur. Et s'il ne le fait pas par les circonstances, il le fait à l'intérieur de nos vies, en essayant de nous accuser nous ou alors d'accuser les autres. Mais il y a un Dieu qui sauve, il y a un libérateur. Et le diable aime se servir de la honte. Le diable aime se servir de la confusion dans nos cœurs pour qu'on ne sache plus quoi faire, quoi dire. Mais David avait compris qu'il ne faut pas laisser la honte régner, il faut laisser le Seigneur régner. Et il faut demander au Seigneur son intervention. Je réfléchissais à cette simple question. Quand est-ce que David a eu honte ? Non, David, il n'a jamais eu honte. Lui, c'est un homme de Dieu. Il était toujours bien avec le Seigneur. Ben, quand on étudie la parole, on s'aperçoit qu'il y avait certains moments où il a eu honte. Et à juste titre. Parce qu'il a mal agi. Le premier, le plus connu, c'est quand le prophète Nathan lui a dit « Tu es cet homme ». Lui, il commençait à pester contre un monsieur méchant qui avait volé la brebis de quelqu'un d'autre. Et en fait, c'était une parabole de ce que lui, il avait fait. Il avait pris la femme de quelqu'un d'autre. Et le prophète lui a dit « Tu es cet homme ». Oh, c'était pas facile pour le prophète d'aller voir le roi et de lui dire ça. Et il s'y est pris comme il fallait. Mais David, regardez comment il a réagi. Il a eu honte de lui-même, de son péché. Il s'est humilié. Et la première parole qu'il a dit, d'ailleurs vous remarquerez à chaque fois que David il a eu honte, il reconnaît son péché. J'ai péché devant l'Éternel. C'est la première parole qui sort de sa bouche. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez honte ? Est-ce que vous vous cachez ? On le fait tous, hein. On a tendance, quand on a honte, on veut pas que les gens nous voient. Et c'est une réaction humaine. Mais la meilleure chose à faire après ça, c'est de dire, Seigneur, j'ai péché. Seigneur, j'ai pas fait ce qu'il fallait, mais je crois que tu veux me pardonner. À un moment donné, David, il voulait remporter encore des victoires, il en avait remporté beaucoup, il est arrivé dans les limites de la prophétie que Dieu avait donnée à Abraham par rapport au pays d'Israël. Il avait remporté tous les territoires autour d'Israël. Et il a fait un dénombrement pour savoir combien il pouvait avoir de personnes de soldats dans son armée. Alors qu'il était déjà arrivé au bout. Et il voulait plus. L'ambition, l'arrogance, l'orgueil de dire, ça y est, j'y suis arrivé, je peux me baser sur mes réussites pour avancer, sans connaître ce que le Seigneur veut. Ça nous arrive jamais, ça non plus. Mais au cas où, David, lui, ça lui arrivait en tout cas. Le résultat, c'est que, mais il y a une plaie qui a frappé le peuple d'Israël. À cause de son péché. À cause de son péché à lui, c'est des gens du peuple qui ont été touchés. C'est mystérieux, ça. Parce que quand on est en position d'autorité, il y a aussi une responsabilité. Mais quand David a reconnu son péché, il s'est agenouillé devant Dieu et il a dit, j'ai péché, Seigneur. Quand il a eu cette honte qui est montée en lui, il a dit, j'ai péché. La honte, elle nous abaisse. La honte, de notre péché nous abaisse. Mais quand on se repent, le Seigneur nous élève. Celui qui s'abaisse sera élevé. On peut se laisser piéger par la honte et rester enfermé. Le diable, il aime ça. Le diable, il aime nous retenir en bas, dans la culpabilité. On a péché, on est coupable et il insiste sur ça. D'ailleurs, vous avez remarqué sa pratique. Il est souvent celui qui nous fait le croche-patte pour tomber. Et après, une fois qu'on est tombé, il nous accuse. Mais pourquoi t'es tombé? Ça, c'est la façon d'agir du diable. Il nous met devant nous la tentation et une fois qu'on franchit, il nous met la culpabilité. Et il nous laisse enfermé, abaissé sous le poids de la culpabilité. Mais David savait qu'à ce moment-là, il faut élever son âme. Seigneur, je suis tout en bas, je suis au fond du gouffre, mais j'élève mon âme vers toi. Je suis en train de me noyer sous ma honte à cause de mes erreurs, mais j'élève mon âme à toi. Et le Seigneur saisit cette main pour nous sortir de la honte et pour nous amener dans sa présence. Il y avait un homme qui avait du succès dans les affaires. Et il avait un fils bien éduqué et qui était très respecté, très honoré comme son père. Mais un jour, on a découvert qu'il faisait des détournements d'argent. Et ce jeune homme s'est retrouvé à avoir un procès sur le dos parce qu'il avait volé de l'argent. Et face à ses accusateurs, face à toutes les preuves qu'il y avait là devant lui, il était totalement indifférent, impassible, comme si ça ne le touchait pas. Oh, les gens lui disaient, tu as volé ceci, tu as fait, écrit des faux chiffres, etc. Ça lui faisait rien. Alors le juge lui a dit, monsieur accusé, levez-vous pour recevoir la condamnation. Ça lui faisait rien. Il allait recevoir des années de prison, il s'en fichait. Et puis il a entendu du bruit derrière lui. Alors que toute la salle était assise, il y avait un homme qui était debout. Et qui s'est levé en même temps, c'était son papa, qui a voulu s'associer à la condamnation. Il a porté sur lui la faute. Il se disait, qu'est-ce que j'ai loupé avec mon fils? Qu'est-ce qui ne va pas? Et quand il y a eu l'accusation qui a été prononcée, il s'est levé en association avec son fils. Et à ce moment-là, le cœur du jeune homme a été brisé, parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait déçu son père. Il s'est rendu compte à quel point il avait blessé son cœur. Et il a commencé à se remettre en question. Ah, il a fait ses années de prison, mais son cœur a été touché à ce moment-là. La honte est venue sur lui à ce moment-là, de réaliser jusqu'où il était allé. Ce que j'aime réaliser, moi, c'est que face à ma honte, qui est justifiée quand je pêche, face à la sentence de mort qui retentit à cause du péché, Jésus s'est levé, lui. Jésus s'est levé. Et il n'a pas juste écouter la condamnation pour s'associer avec moi, il a pris la condamnation sur lui à la croix. Il a pris le châtiment, il a pris la honte, il a pris l'opprobre, il a pris tout ça pour que je ne puisse plus le vivre, pour que je puisse passer à ce moment où je suis élevé dans sa présence. Quel est le remède à la honte selon David dans ce passage? Au verset 3, il est dit, tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas confondus ou n'auront pas honte. Tous ceux qui espèrent en toi, l'espoir, l'espérance même, on pourrait dire, espérer, ça veut dire s'attendre à Dieu, ça veut dire se confier en lui, ça veut dire compter sur lui. Ça veut dire que je continue de lever mon âme vers le ciel, mais je sais que le Seigneur va voir cette âme qui est vide, qui est brisée, il va la remplir, il va la restaurer, il va la refaçonner pour en faire quelque chose. Ça, c'est l'espoir. S'attendre à ce que le Seigneur agisse, même s'il n'y a rien qui semble le dire avec les yeux humains. La honte nous abaisse, mais l'espoir nous élève dans la présence de Dieu. C'est important, l'espérance. Vous préférez le désespoir ou l'espoir? On est d'accord. On préfère l'espoir, mais est-ce qu'on le vit toujours, l'espoir? Mais en Dieu, on peut. En Dieu, c'est possible. Avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Je lisais ce petit article que dans une grande ville américaine, ils avaient un programme scolaire pour aider les enfants à continuer à travailler alors qu'ils passaient des séjours à l'hôpital pour pas qu'ils prennent trop de retard. Et donc, il y a un jour, un enseignant qui était affecté à ce programme, il reçoit un appel pour aller visiter un enfant. Et il contacte le professeur habituel de l'enfant pour savoir où c'est qu'ils en sont. Et le professeur lui dit, on est en train d'étudier les noms et les adverbes. Donc, ça serait bien d'aller dans ce sens pour pas qu'ils prennent trop de retard. Donc, l'enseignant du programme, il va à l'hôpital pour le visiter. Ce qu'il ne savait pas, c'était la maladie ou ce qui avait touché cet enfant. Et en fait, il avait été gravement brûlé. Il souffrait beaucoup. Et quand l'enseignant est venu, son cœur a été touché forcément et était un peu décontenancé. Il avait son programme sous le bras, mais il savait pas trop comment s'y prendre parce que il entendait l'enfant se plaindre, gémir de douleur et il le voyait vraiment dans un mauvais état. Puis il a fait ce qu'il a pu, il a ouvert ses cahiers, allez, on va étudier les noms et les adverbes. Il arrivait pas trop à parler, bégayer, parce que c'est pas évident, hein. Vous avez déjà vu une personne souffrante, c'est pas évident d'être dans cette présence-là et d'essayer d'apporter une consolation. Mais en tout cas, il va jusqu'au bout. Et puis, le lendemain, il revient. Et là, le personnel soignant l'attend devant la porte. Et ils lui disent, qu'as-tu fait hier? Oh là là, excusez-moi, je savais pas trop comment m'y prendre. Non. Qu'est-ce que vous avez fait hier? Parce que depuis hier, ce jeune homme, il a repris confiance. Depuis hier, ce jeune homme, il a repris espoir, il se bat. Et les traitements qui, pendant plusieurs jours, n'ont servi à rien, ils sont en train d'agir. Depuis hier que vous êtes venu, qu'est-ce que vous avez fait? On a juste ouvert les classeurs et étudié les noms et les adverbes. Je sais pas si c'est ça le médicament. Mais... Et en fait, le jeune homme, il a dit... Quelques temps plus tard, il a dit ce qui s'est passé, lui. Il a expliqué avec ses mots. Il a dit, il n'enverrait pas un professeur travailler sur des noms et des adverbes à quelqu'un qui était mourant. Et du coup, il a repris espoir. S'il m'envoie un prof pour travailler, c'est que je vais vivre. Donc, allez, on y va. L'espoir a amené ce jeune homme à reprendre de l'assurance, à ce que les traitements agissent. Et quand on sait que le Seigneur Jésus prend du temps avec nous, il y a l'espoir. Non? Si. Il y a l'espoir. Est-ce que Jésus prend du temps avec nous? Ben, ça dépend que nous, en fait. Hein. Mais lui, il a promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours. Ce qui veut dire qu'il y a toujours de l'espoir. Parce que le Seigneur est à notre disposition. Et il n'est pas à notre disposition pour qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Il est à notre disposition pour nous dire ce qu'on doit faire. Ça, c'est important de le réaliser. C'est lui le maître. C'est lui l'enseignant. C'est pas le garçon qui a donné la leçon à l'enseignant. Non, c'est nous les élèves. C'est nous qui avons besoin d'être instruits. D'ailleurs, quand on regarde les paroles d'espérance dans ce psaume, on s'aperçoit que il en est question au verset 5, dans ce contexte qu'on va voir juste après, de l'âme reposée. Et en plus, c'est une condition, car tu es toujours mon espérance. On va y venir à ce verset. Et au verset 21, c'est quand je mets en toi mon espérance qu'il y a des choses qui se passent. Élever son âme Mais ne pas espérer, ça sert à rien. Il faut élever son âme et s'attendre, avoir cette espérance que le Seigneur va agir. Ce matin, peut-être quelqu'un a besoin juste d'entendre cette parole. Élève ton âme, mon frère, ma sœur. Élève ton âme. Ne laisse pas les choses de la terre te disperser. N'est-ce pas les bruits ambiants te disperser. Élève ton âme par-dessus tout ça. Élève ton âme et attends-toi à ce que le Seigneur fasse quelque chose. Et il va le faire. Parce qu'il est fidèle. Le Seigneur veut que notre âme s'élève. Le Seigneur veut que notre âme aussi se repose. Verset 12, regardez ce qu'il est dit. Une question. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? On veut tous dire, moi Seigneur. L'homme et la femme, on comprend. Hein. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Et regardez ce que David dit. Son âme reposera dans le bonheur. Son âme reposera dans le bonheur. Qui désire que son âme repose dans le bonheur? Qui désire le repos de l'âme? Tout le monde. Tout le monde. Les gens de cette terre courent après le bonheur. Même chacun de nous, on aspire à une chose, c'est le bonheur. Mais on a compris que le bonheur se trouve pas dans les choses de la terre. C'est pour ça qu'on élève notre âme. On a compris que le bonheur se trouve dans la présence de Dieu. Et notre âme peut reposer. C'est ce qu'il est dit dans ce texte. Notre âme peut prendre du repos. Attention toutefois à ne pas tomber dans le mauvais repos. Ce qu'on pourrait appeler, ce que la Bible appelle la paresse. J'attends que Dieu fasse tout. Moi, je ne fais rien. Ça, c'est pas le bon repos de l'âme. Et d'ailleurs, quand on est dans cet état-là, ben, on sent bien que notre cœur est pas reposé du tout. Parce qu'on est déçu, blessé et irrité. Parce qu'on s'aperçoit que les choses ne fonctionnent pas. Non, il y a un autre repos de l'âme que le Seigneur nous invite à vivre. Et c'est cette image de quelqu'un qui est en train de marcher. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Dieu est en train de dresser un chemin devant nous sur lequel nous pouvons avancer. Pour chacun d'entre nous en particulier, Dieu a un chemin. Pour chacun, personnellement, Dieu a un chemin sur lequel il veut que nous marchions. Souvenez-vous qu'on n'est pas loin du psaume 23. Qu'est-ce qu'il est dit dans le psaume 23? Vous le connaissez par cœur. Je vous fais confiance. Qu'est-ce qu'il est dit? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer, tiens, dans de verts pâturages. Il restaure mon âme et il me conduit près des eaux paisibles. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il y a vraiment cette idée, si on veut le repos du Seigneur, c'est pas en s'asseyant sur sa chaise et en attendant que ça nous tombe du ciel. Il faut marcher avec le Seigneur. Il faut avancer, se laisser conduire par le Seigneur. Pas faire ce que nous on a envie de faire, mais faire ce que le Seigneur nous demande de faire. L'image dans le psaume 23 que l'on retrouve dans le psaume 25, c'est l'image du berger qui conduit son troupeau. Jésus est devant, Jésus nous trace le chemin. À nous de le suivre, à nous de se mettre à son école et de le laisser nous instruire. C'est pour ça qu'au verset 4, il y a cette deuxième prière qui est là, après avoir dit « Éternel, élève, j'élève mon âme vers toi ». Au verset 4, « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité, instruis-moi ». On pourrait simplifier tout ça en résumé en disant « Éternel, conduis-moi ». Vous faites cette prière des fois au Seigneur, peut-être tous les jours, hein, et vous avez raison de le faire. Éternel, conduis-moi. J'ai tellement besoin d'une direction dans ma vie. Et on sait qu'il y a des âges où c'est important quand on est jeune, quand on cherche à savoir quoi faire comme étude, quand on cherche un mari, une épouse, quand on cherche où c'est qu'on va habiter, quand on cherche un travail. Il y a tellement de circonstances qui font qu'on a besoin d'une direction du Seigneur. C'est pour ça que David disait « Éternel, conduis-moi ». Oh, est-ce que David a été conduit? Ben, quand on voit ce qu'il a vécu, oui. Sauf que le chemin pour aller jusqu'au trône, il n'était pas forcément le plus évident. Je ne sais plus combien d'années, au moins une dizaine d'années, je crois, dans le désert, à fuir le roi Saül, parce que et c'est le plan que Dieu avait prévu pour lui. Dieu lui avait dit, tu vas être roi, ne t'inquiète pas, tu vas prendre la succession de Saül. Et le lendemain, il était en train de fuir. Enfin, j'exagère. Fuir pendant des années. Mais c'était le plan de Dieu pour lui. Et il n'avait pas de regret, lui, parce qu'il savait où c'est qu'il en était avec Dieu. Toutes les circonstances étaient défavorables, mais il avait une promesse qu'il repassait dans son cœur. C'est pour ça qu'à un moment donné, il dit « Éternel, conduis-moi ! Oh, j'ai l'impression qu'il y a des ennemis partout, j'ai l'impression que rien ne va ! Éternel, conduis-moi !» Et il est capable de dire « Mon âme reposera dans le bonheur. » Alors qu'il est dans la fuite, alors que rien n'est en train d'aller, son âme est en paix. C'est pas merveilleux, ça? Est-ce que c'est pas ça le secret du bonheur? Le secret du bonheur, c'est pas que tout aille bien, parce que là, on peut attendre longtemps, et ça va pas s'arranger. Le secret du bonheur, c'est que dans notre âme, on soit en paix, parce que on est conduit par le Seigneur. Le meilleur endroit sur la terre où c'est qu'il faut aller, ce n'est pas un lieu géographique, c'est la volonté de Dieu. C'est d'être dans le plan de Dieu. Et quand on est dans le plan de Dieu, même si les choses sont pas toujours évidentes, on sait qu'on est dans le plan de Dieu parce qu'on avance quand même, on arrive à traverser ce qui est difficile, on arrive à avancer malgré le contexte éprouvant. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Oh, il y a un verset qui m'a touché quand j'étais jeune et que justement je me posais plein de questions sur l'avenir. Il y a un verset qui dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets ». Il y en a, hein ? Vous en avez des projets ? Il y en a plein. Et quand on est arrivé au bout de certains, ben, il y en a d'autres qui viennent. Mais c'est le projet de l'Éternel, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ça, c'est bon de réaliser que Dieu veut que son dessein s'accomplisse dans notre vie. Mais il ne va pas nous forcer, par contre. Il sera toujours celui qui propose devant nous, il nous place ses projets, à nous d'y entrer pleinement. Comment être conduit et instruit? Au verset 8, il est dit « L'Éternel est bon et droit ». C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie, il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Donc, c'est facile, pour être conduit, il faut être humble. Non ? C'est facile, j'ai l'impression que c'est une équation. Le verset le dit simplement, il conduit les humbles. Mais c'est clair que si je suis dans l'orgueil, ben Dieu résiste aux orgueilleux. Si je suis dans l'humilité, Dieu fait grâce aux humbles et il va nous conduire et il va pouvoir nous donner des paroles qui vont nous toucher. Mais si on est dans l'orgueil, si on s'attache à notre parole, à ce que l'on pense plutôt, à notre raisonnement, bien on ne peut pas connaître cette volonté de Dieu. L'humilité, en fait, c'est accepter d'être enseigné. L'humilité, c'est accepter de faire des progrès parce qu'on réalise qu'on en a besoin tous. Souvent, le Seigneur nous enseigne, enfin, ça arrive plutôt que le Seigneur nous enseigne directement. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais dans votre chambre, vous lisez un texte et les choses s'illuminent. D'un coup, vous comprenez quelque chose de spécial. Ça arrive. Vous l'avez vécu? Oui. Mais tellement plus souvent, le Seigneur utilise les frères et sœurs pour nous apprendre. Et des fois, c'est pas dans les situations les plus évidentes. Vous savez comment les cailloux dans les rivières sont polis, sont tout ronds? On a l'impression que c'est quelqu'un qui a pris le temps de les tailler un par un. Mais c'est pas ça. C'est qu'à force, avec le courant, de se cogner les uns contre les autres, eh bien c'est comme ça que les aspérités font qu'elles s'en vont et tous les cailloux deviennent polis. Et c'est exactement le même principe avec nous. Alors il n'est pas question de faire les auto-tamponneuses entre nous, hein, c'est pas ça. Mais nos caractères sont là et font que parfois on peut se rentrer dedans, excusez-moi l'expression. Mais quand on laisse le Seigneur nous conduire, on s'aperçoit que derrière tout cela, il y a sa main pour nous instruire. Peut-être que là j'ai été trop loin. Ou peut-être que j'ai pas été assez loin. Et il faut toujours être dans cette dimension, Seigneur, je suis devant toi. J'ai besoin d'être enseigné. Enseigne-moi, conduis-moi, fais-moi connaître. Il y avait un garçon chinois qui voulait en savoir plus sur le jade. Le jade, c'est une pierre particulière là. Et donc, il est allé étudier ça avec un vieux professeur qui était connu pour sa sagesse. Et ce monsieur donc a commencé à lui mettre une pierre dans sa main et lui a dit « Tu serres cette pierre très fort ». Et puis il a commencé à lui parler de la pluie, du beau temps. Il ouvre le journal et il lui parle de tous les sujets d'actualité, de la philosophie, de tout ce qui se passait dans la ville. Puis le garçon, il comprenait pas trop, bon, mais c'est le maître talentueux, donc il lui fait confiance. Et puis au bout d'une heure, il lui reprend la pierre et il le renvoie chez lui. Et puis il lui dit « Demain, tu reviens ». Le lendemain, le jeune homme revient. Et puis, la même chose, il lui remet une pierre dans la main, serre-la très fort, et puis il lui parle de tout et de rien. Et il fait ça pendant des semaines et des semaines. Alors le garçon, au bout d'un moment, il est frustré, mais il dit « Mais moi, je suis venu pour connaître mieux ce matériau de jade. Et qu'est-ce qu'il nous fait, le professeur ?» Alors, il est trop poli pour lui dire ce qu'il pense, mais il en pense pas moins. Et puis, un jour, alors qu'il a repris son habitude, il s'est assis à côté du professeur, le professeur lui met une pierre dans la main, et puis là, tout de suite, il s'arrête et lui dit « Mais ça, c'est pas une pierre de jade ?» Et le professeur lui dit « Ben c'est bon, tu es formé. » Tout le temps où il avait la pierre serrée dans la main, en fait, c'était pour l'apprendre à discerner. Et dès qu'il a eu quelque chose de différent, il a compris tout de suite. Mais le Seigneur s'y prend exactement comme ça avec nous. Et des fois, on comprend pas parce qu'il nous dit « Mais lis ma parole, prends du temps dans la prière. » Et on dit « Mais Seigneur, ça sert à quoi ? Ça sert à quoi de m'acharner sur ça ?» Mais pendant qu'on est en train de faire ça, ben Dieu, il nous apprend. Dieu, il nous conduit. Dieu, il nous montre la voie que nous devons suivre. Alors, il faut l'humilité pour se laisser enseigner. Il faut l'obéissance, comme le dit le verset 10. « Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. » Quand je suis dans l'obéissance, ben le Seigneur va être capable de me conduire. Il y a un ordre à respecter. Pour que Dieu nous apprenne de nouvelles choses, il faut qu'on obéisse aux choses anciennes, n'est-ce pas? Des fois, on voudrait des nouvelles révélations, mais le Seigneur nous dit « Mais d'abord, reviens aux bases, et après, je t'apprendrai. » Imaginez, alors je prends un exemple totalement vécu. Si votre enfant a rempli le salon, le canapé, les meubles, la table, le sol de jouets, bon, je ne sais pas s'il y en a qui ont vécu ça, je connais un petit peu. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous allez vous dire « Tiens, je vais apprendre à jouer de l'instrument à mon enfant ?» Non ? Vous ne faites pas ça, vous ? Moi non plus. Je lui ai dit « Tu veux apprendre à jouer du piano ? D'abord, tu ranges. Range tes jouets, après on verra. » Et quand il le fait, ben, il n'y a aucun souci, on apprend quelque chose. Mais est-ce que Dieu ne fait pas la même chose avec nous ? Des fois, on voudrait apprendre à jouer du piano spirituel, on voulait vivre des expériences avec le Seigneur, et sur les petites choses simples de faire le ménage dans notre vie, on ne le fait pas. Mais le Seigneur, il nous aime encore plus qu'un père. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. La dernière prière, on la trouve au verset 20. Garde mon âme et sauve-moi. Notre âme a besoin d'être gardée. Notre âme a besoin d'être élevée. Notre âme a besoin d'être reposée. Mais notre âme aussi a besoin d'être gardée. Sauve-moi, garde mon âme, que je ne sois pas confondu quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent. Dieu est en train de dire, voilà la clé pour que ton âme soit gardée, c'est l'innocence. Est-ce qu'il y a des innocents parmi nous ? Qui est innocent ? Il n'y a qu'une personne, deux, qui ose le dire. En fait, vous attendez de dire c'est quoi innocent ? Qui a été innocenté par la grâce de Dieu ? Ah là, on est d'accord, hein ? Mais on sait qu'on n'est pas innocent devant le Seigneur, on a tous péché. Il n'y a aucun juste, pas même un seul. Et gardons-nous de croire qu'on est parfait. Mais on a été innocenté, gracié. Et maintenant, nous pouvons être protégés. Alors, comment est-ce qu'on reste ? Comment est-ce qu'on fait que notre âme soit gardée? Mais c'est quand on a appris à se repentir, quand on pêche. Tout simplement. C'est ce qu'a fait David. Dès qu'il a été au contact du péché, qu'il a ouvert les yeux sur son péché, il s'est repenti. Il a cherché à retrouver la communion. Il n'a pas laissé le temps passer. Il n'a pas dit « ça va s'arranger avec le temps, ça va diminuer ». Non, on souffre longtemps du péché, nous dit la parole. Le péché, c'est quelque chose dont on souffre longtemps. Si on ne se repent pas, d'ailleurs, on en souffre toute notre vie, et même pendant l'éternité. Mais si on se repent, Si on confesse notre péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Au verset 6, il y a cette même prière qui est là. C'est Éternel, souviens-toi de ta miséricorde. Ne te souviens pas de mes fautes. Ne te souviens pas de mes erreurs de jeunesse, de mes transgressions. Vous êtes content que le Seigneur, il oublie? Oui. Alors combien ça fait du bien de savoir que quand on lui demande pardon, le Seigneur oublie notre péché. Le Seigneur ne se souvient pas. Pourtant, on sait qu'il a la meilleure mémoire de tout l'univers. Beaucoup mieux que, j'allais dire la mienne, mais ça c'est facile. Beaucoup mieux que la mémoire de Marink. Encore. Vous imaginez? Une mémoire incroyable. Il a vu tous les êtres humains sur cette terre, il se souvient de chacun d'entre eux, il connaît leur nom. Il connaît le nom de chacune des étoiles. Une mémoire incroyable. Mais il a choisi de dire, quand un homme se repent, j'oublie. Je ne me souviens plus de son péché. Et je veux dire avec David, souviens-toi de ta miséricorde. Souviens-toi de ta bonté pour moi, Seigneur. Oh, c'est vrai que j'ai péché, c'est vrai que j'ai été parfois de travers. Seigneur, pardonne-moi pour cela. Souviens-toi de ta bonté. Que tes plans de bonté et tes projets de paix s'accomplissent pour ma vie. Est-ce que vous êtes d'accord de faire monter ces trois prières devant le Seigneur, ce matin encore? Amen. On va fermer les yeux quelques instants. Et peut-être que pour quelqu'un, ça sera la première qui aura plus de poids. Peut-être que pour un autre, ça sera la deuxième ou la troisième. Ça, c'est le Saint-Esprit qui le sait et qui va l'appliquer au bon moment. Ce que nous voulons, c'est que notre âme goûte au trésor de la présence de Dieu encore ce matin. Merci Éternel. Oui, nous bénissons ton Saint-Nom. Éternel, notre âme s'élève devant toi. À chacun en particulier, nous voulons faire cet effort d'élever nos cœurs, nos mains, comme nous l'avons chanté, mais surtout notre âme devant toi. Alors que les ennemis sont nombreux autour de nous, et agissent de manière différente pour les uns et les autres, nous savons que la solution, l'espérance, elle est devant toi, dans ta présence. Notre âme s'élève, alors Seigneur, remplis notre âme de paix. Notre âme s'élève devant toi, alors remplis-la d'amour. Remplis-la de persévérance, remplis-la de joie, alors qu'il y a des sujets de tristesse autour, Seigneur. Remplis notre âme des trésors de ta présence. Conduis-nous, Seigneur, dans tes sentiers. Instruis-nous, montre-nous la voie que nous devons suivre. Souviens-toi de ta bonté pour tes enfants. Si quelqu'un a péché ce matin et qu'il se repent devant toi, ne te souviens pas de son péché, Seigneur. Mais souviens-toi de ta miséricorde. Voilà les prières, Seigneur, que nous voulons faire monter devant toi et que nous savons que tu vas agréer. Ta parole nous dit que l'amitié de l'Éternel, elle est pour ceux qui le craignent. Ta faveur, Seigneur, elle est pour nous ce matin parce que nous avons la crainte de ton nom. Merci, Éternel. Amen.